Donc, premier point, les écoféministes à leur insu. Alors, point d'interrogation, parce que moi, ça me dérange en fait d'accoler des étiquettes à des gens qui ne se désignent pas de cette façon-là. Mais il me semble qu'il y a quand même une utilité pour repérer quelque chose qui vraiment est dans l'air du temps depuis quelques années, peut-être depuis 2015, comme l'a souligné aussi Camille Froidmont-Mettrie. Donc, Simone de Beauvoir écrit dans Le deuxième sexe, il est des époques où s'affirme un romantisme vitaliste qui souhaite le triomphe de la vie sur l'esprit. Alors, la fertilité magique de la terre, de la femme, apparaît comme plus merveilleuse que les opérations concertées du mal. Et en fait, il me semble que depuis quelques années, on est un peu dans une de ces époques où on s'aperçoit qu'il y a peut-être un tel excès de rationalisme technocratique étriqué que, de fait, dans la sphère publique, les thèmes liés à l'écoféminisme, liés à la magie, à la sorcière, au féminin sacré, à la puissance du corps, se médiatisent. Et donc, il y a une sorte d'air du temps écoféministe, même si le terme n'est pas utilisé. Ça pose la question justement de quels sont les contours réels de l'écoféminisme. Parce qu'on voit que l'écoféminisme, en tout cas la sensibilité écoféministe, est tellement dans l'air du temps qu'il y a une tentation de considérer que plein, plein, plein de personnes seraient écoféministes sans le savoir et qu'il suffirait d'être une femme rurale ou une paysanne ou une femme engagée sur des questions environnementales. Ou voilà une femme typico, par exemple, pour être écoféministe. Personnellement, moi, ça me gêne de dire écoféministe, comme j'ai dit, des femmes qui ne s'en revendiquent pas. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, on voit que ça correspond à des stratégies de constitution du nous. Il y a certaines chercheuses qui considèrent que pour visibiliser la masse de femmes qui sont actives, qui sont mobilisées, qui sont investies dans des luttes environnementales, on peut dire que le nous, les écoféministes, s'étendrait à des femmes qui ne se revendiquent pas écoféministes, mais qui, dans leur quotidien, dans leur pratique ou dans leur lutte, ont des affinités avec l'écoféminisme. Voilà, cette stratégie me dérange un peu, mais en tout cas, on voit que cette question de comment on constitue le nous, qui on inclut dans le nous, les écoféministes, est une question importante. Alors là, je n'ai pas mis la photo de Greta Thunberg, mais par exemple, systématiquement, on me demande, et alors, Greta Thunberg est-elle écoféministe? Voilà, de la même façon, les femmes typiques sont-elles écoféministes? En tout cas, on voit qu'il y a un flottement aujourd'hui. Est-ce que si on est une femme et qu'on s'intéresse à l'écologie, enfin, jusqu'où on étend la nébuleuse? Ce qu'on observe aussi, bon, voilà, pour vous montrer à quel point il y a un air du temps écoféministe. On voit qu'il y a une prolifération d'ouvrages, donc voilà, on peut s'étonner parfois d'où ils proviennent justement, autour de ces thèmes-là. Donc par exemple, voilà, Les femmes, avenir de la terre, ou le dernier, enfin je crois, le dernier bouquin de Ségolène Royal, ce que je peux enfin vous dire. Et sur la quatrième de couverture, donc Ségolène Royal écrit: J'ai appris de ma longue expérience des combats écologiques la ressemblance entre les violences faites aux femmes et celles faites à la nature, avec des prédateurs qui maltraitent, salissent, exploitent trop souvent en toute impunité. Le même vocabulaire, la même loi du silence, respect de la nature, respect des femmes, et s'il y avait là une réponse aux deux fléaux qui frappent aussi bien la planète que l'action politique, la déshumanisation et le déracinement. Donc, on voit qu'en fait, dans la sphère médiatique vraiment mainstream, et dans la sphère politique mainstream, il y a cette expansion de thèmes écoféministes. Ça fait vraiment partie de l'imaginaire de plus en plus répandu. Au point que, par exemple, Ségolène Royal dit que c'est sa longue expérience qui lui a appris ça. Là aussi, je trouve que c'est très intéressant sur la façon dont ça interroge le nous. C'est-à-dire, on trouve un petit peu la même chose chez Derrida. Derrida, dans l'œuvre de Derrida, il y a beaucoup de thèmes qui, si on les lit après avoir lu les ouvrages écoféministes, semblent en venir très clairement sur le carmophallocentrisme, etc. Et Derrida écrit: Tout naturellement, mon itinéraire intellectuel m'a amené à étendre la question du logocentrisme, au carmophallocentrisme, sans jamais citer sa dette à l'égard de théoriciennes écoféministes. Donc peut-être qu'il ne les a pas lues, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a à la fois la volonté de s'inclure dans un nous, en reprendre les thèmes, sans reconnaître sa dette, en se dissociant de la version trop politisée du nous. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, ça repose cette question. Et donc, au point que c'est tellement dans le temps qu'on voit même des coques d'iPhone écoféministes, où on atteint une sorte de parlons de l'absurdité. Donc voilà, du coup, une des questions que ça pose, c'est jusqu'où on peut étendre le nous sans éliminer la diversité des manières d'être écoféministe, des manières de faire partie, mais sans non plus que cette inclusion soit une dilution totale, une absurdité totale. Donc comment on peut faire groupe d'une façon qui soit cohérente sans être unifiée, et comment on peut inclure dans un nous de façon souple, mais sans que ce soit une perte totale du sens que ça a de revendiquer le terme écoféministe. Alors, du coup, je passe à la deuxième catégorie qui, là, est pour le coup celle qui cherche à incarner la cohérence maximale, donc que j'ai appelée l'écoféministe radicale. Donc, les photos que je vais vous montrer, je les ai prises pendant mon séjour chez Sylvie Barbe, que vous voyez ici, à l'été 2017. Donc, Sylvie Barbe, c'est une femme qui a écrit un livre qui s'appelle « Vivre en yourte, un choix de liberté », qui se revendique explicitement écoféministe, qui vit dans les Cévennes, dans un terrain de forêt qui lui appartient. Et elle cherche à être écoféministe vraiment en pratique, à incarner la forme la plus cohérente de mode de vie avec les idéaux écoféministes. Donc, je vais vous montrer quelques images de… l'idée directrice, c'est une transformation totale de nos modes de vie pour faire de la satisfaction des besoins basiques le but et le chemin, pas seulement dans le sud, mais aussi dans le nord. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc, voilà une photo d'un des bouts de son terrain. Premier principe qu'elle met en application, habiter le monde sans prédation. Ça rejoint un principe indien, enfin, ou plus largement, en fait, un principe des éthiques indiennes, le principe de Ahimsa, qu'on traduit non-violence ou non-nuisance, qui est vraiment un principe fondamental de l'éthique écoféministe telle que Sylvie Barbe, non seulement la pense, la réfléchit, écrit dessus, mais la pratique. C'est-à-dire, donc, comment on peut vivre, et donc manger, se chauffer, habiter, sans violenter ou sans exploiter, donc en utilisant son environnement, mais sans pour autant l'exploiter, sans rapport de prédation. Donc, tout le mode de vie de Sylvie Barbe est lié à cet impératif de réussir à vivre et à satisfaire ses besoins sans aucune prédation superflue des ressources naturelles, des matières premières qui sont dans son environnement immédiat, ni des matières premières qui seraient à l'autre bout du monde et qui permettraient de fabriquer des vêtements, des smartphones, des voitures, etc., sans prédation non plus du travail d'autres personnes, en particulier d'autres femmes, d'ouvrières du textile, d'ouvrières de l'électronique, donc sans prédation de main-d'œuvre surexploitée en France ni n'importe où dans le monde. Donc ça signifie qu'elle a construit un mode de vie de sobriété radicale, fondé sur le boycott d'énormément d'objets et de biens de consommation dont nous nous servons quotidiennement. Donc concrètement, sur son terrain, elle n'a pas l'eau courante, elle n'a pas l'électricité, elle ne possède pas de voiture, ni de frigo, ni de télé, ni de différents objets du quotidien. Et pour réussir à boycotter, à retirer sa participation à un système qu'elle condamne, qui pour elle justement repose sur ce nous pyramidal, donc pour ne pas être à une place qui va la rendre complice de ce nous pyramidal, pour boycotter, ça signifie qu'il faut aussi acquérir des centaines de savoir-faire qui permettent de fabriquer ce qu'on ne veut plus acheter. Donc, il y a beaucoup de choses dont elle se passe, mais par exemple, elle ne vit pas toute nue, donc elle fabrique ses vêtements. Elle ne vit pas sous la pluie, donc elle fabrique ses habitations. Donc là, les yourtes et les tipis qui sont sur son terrain, c'est elle qui construit tout par elle-même. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant chez elle, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'elle sait tout faire. Tout sur son terrain, tout ce qu'elle porte est construit par elle-même. Donc voilà, le premier pas pour incarner l'écoféminisme selon elle, c'est se retirer de ce nous pyramidal du capitalisme patriarcal.